Vous écoutez France Culture.
Pura vida. Vida y muerte de William Walker.
Pura vida. Vie et mort de William Walker.
De Patrick Deville.
Adaptation, Arnaud Bertina.
Septième épisode.
Le narrateur est à Tegucigalpa, capitale du Honduras, alors que le pays est en pleine effervescence. Après la guerre du football en 1969, une autre cause imbécile, des arbres abattus du mauvais côté de la frontière, est sur le point de déclencher un nouveau conflit armé. La presse et la classe politique sont en état d'alerte. Un conflit picrocolin au regard de la seconde expédition montée par William Walker en 1856, qui verra se lever contre lui un corps expéditionnaire international.
El Nuevo Día est aujourd'hui le seul à faire sa une sur la guerre du bois sans publier de photographie. La place étant prise par un autre article illustré celui-ci. On y voit quatre hommes jeunes, debout contre la carrosserie rouge d'une automobile, dans un jardin baigné de soleil. Ce ne sont pas des bûcherons, mais des délinquants. Sous la couverture de l'agence matrimoniale Latin Lovelace International, ils organisaient la traite des blanches dans la région de San Pedro Sula, à destination des États-Unis. Trata de Blancas. Tiempo relègue quant à lui cette information en page 20, avec une photographie presque identique, mais l'un des quatre hommes, qui portait un t-shirt blanc dans El Nuevo Día, a maintenant le torse nu. Le journal publie également, en page 56, cette petite annonce qui aura échappé à la vigilance de la rédaction, prise de vitesse par l'actualité. Américains du Nord viendront bientôt au Honduras pour rencontrer des femmes en vue mariage. Ils les visiteront personnellement. Personnes intéressées, envoyez photos format carte postale et renseignements à Latin Lovelies Intel, P.O. Box 15. C'est donc ainsi que les Mac s'arrangeaient pour visiter personnellement leurs victimes avant de les enlever. Par des petites annonces sibyllines passées dans la presse. Mais leurs contacts locaux sont provisoirement grillés.
Hoy viernes 28 de febrero de 1997, ustedes escuchan Radio Venceremos.
Aujourd'hui, vendredi 28 février 1997, vous êtes à l'écoute de Radio Venceremos.
Abrimos la página internacional de este diario.
À Managua, le président Arnoldo Alemán continue de surexploiter le scandale de la piñata. Caricaturant outrageusement la réalité, il a déclaré hier, en marge d'un meeting, « Beaucoup de sandinistes possèdent de grandes résidences et des propriétés. Ils devront reconnaître leurs vraies valeurs afin que le pays parvienne à la réconciliation et à la justice. »
Le Heraldo consacre aussi une page à cette marée noire qui tue par milliers les phoques de Punta del Este. Le pétrolier fautif n'est pas cubain, mais panaméen. Les pêcheurs de Punta n'auront plus à écarter à coups d'aviron les gros animaux moustachus, qui ne sont d'ailleurs pas des phoques, mais des lions de mer. Des lions de mer qui viennent arracher les poissons pris au filet jusque dans les bassins du port, devant le restaurant El Cañón, dont je pourrais encore réciter de mémoire la carte des vins et recommander un Tanat Stagnari 1993, choix qui mériterait une chronique œnologique dans le supplément Pura Vida du Tiempo.
Pura Vida est un idiotisme du Costa Rica. Ici, on appelle ça un ticismo. C'est intraduisible. En deux mots, c'est le plus beau compliment qu'on puisse adresser à la vie, lorsque de temps à autre, elle le mérite.
Allongé sous un drap, je survolais dans un demi-sommeil les attaques de banque de la veille, les disparitions, les menaces de mort reçues par les représentants du FMI de passage à Tegucigalpa. À 70 miles au large de la côte, près de l'île Vivarios, un bateau de pêcheurs Garifunas avait arraisonné le yacht d'un couple de touristes allemands, le Wendy's. Les indigènes avaient violé la femme blanche après avoir tué le mari au couteau et jeté son corps par-dessus bord. Les gardes-côtes avaient retrouvé la femme évanouie à bord du yacht à la dérive. Avant de m'endormir, J'avais aperçu le bateau fantôme de William Walker au même endroit, au siècle dernier, qui glissait avec lenteur entre les îles de la baie, près de Roatan, où ne varie que la couleur des eaux, du vert pomme au bleu marine selon les profondeurs. Le jeu du soleil au creux des vagues molles se réverbérait sur la côte en amibes dorées, lentes, lumineuses et élastiques.
Nous en étions à l'année 1856. Toutes les nations centra-américaines s'unissent pour lutter contre le jeune président de la République de Nicaragua.
Imagine un peu la situation à Granada. Walker rêvait de devenir le président du centre du monde. Je te rappelle qu'il n'a que 800 hommes valides à ce moment-là, et voilà que plus de 3000 soldats se rassemblent à León sous une seule bannière, le Parti démocratique.
Des costariciens, des honduriens, des guatémaltèques, des salvadoriens et des nicaraguayens.
Alors évidemment, ça s'insulte et ça se bat très facilement le soir. Les coups de poing pleuvent, les coups de couteau. Le commandement décide de lever le camp, et les 3000 hommes traversent Managua pour s'installer non loin du volcan de Masaya, à quelques kilomètres de Granada.
Voit-il dans le ciel du crépuscule filer les étoiles vertes des petits perroquets Chocoyos del Crater. L'un d'entre eux, plus cultivé ou hanté par l'histoire, se souvient-il que ces oiseaux furent décrits pour la première fois par Gonzalo Fernández de Oviedo le 26 juillet 1529, un texte dont je connais encore par cœur des bribes. Je dis que je vis au fond de ce cratère un feu qui était liquide comme de l'eau et de la même couleur que la braise. Vers le milieu, on voyait voltiger une grande quantité de perroquets, de ceux qui ont la queue longue et qu'on nomme chatsabes. Je ne pus jamais apercevoir que leur dos, car j'étais placé beaucoup plus haut qu'eux. À moins que ces soldats n'aient uniquement en tête cet affrontement à venir, qu'ils sont à peu près sûrs de gagner, car ils ne sont pas seuls à chercher Walker. De l'autre côté de l'isthme, à San Juan del Norte, sur l'Atlantique, le milliardaire Cornelius Vanderbilt finance depuis New York une guerre privée contre William Walker. Après avoir traversé les marais de Tortuguero, ces mercenaires sont parvenus à bloquer l'embouchure du fleuve San Juan et poste un garrot entre les États confédérés du Sud et Granada, dès lors impossible à ravitailler en armes. Sur terre, le petit jeune homme en redingote noire a déjà perdu une première bataille à San Jacinto, dans laquelle est mort son ami et conseiller Byron Cole.
Byron Cole? Ah, le patron de presse, celui qui a financé une expédition de Walker, celui qui voyait un canal interocéanique au Nicaragua et jugeait complètement inepte l'hypothèse Panama.
Celui-là, oui. Est-ce qu'il portait un brassard de presse sur sa chemise blanche? Le bavard sympathique est-il tombé les armes à la main? Les avis divergent, vois-tu? Je connais trois versions. Selon Walker lui-même, Byron Cole, tout juste nommé colonel, participait pour la première fois à un combat. Il touchait un fusil pour la première fois. Il a été abattu dès le début de l'attaque en chargeant la tête de ses hommes. Le point de vue de l'ennemi est différent, moins glorieux. Byron Cole aurait battu en retraite et serait tombé au cours de sa fuite aux mains des légitimistes, qui l'auraient fusillé. Et d'après Lorenzo Montúfar, c'est après s'être caché dans la montagne qu'il aurait finalement été pris et fusillé.
William Walker s'enferme dépité dans Granada et s'en remet au génie militaire du très jeune Charles-Frédéric Henningsen, qu'il vient de nommer général. Ce Suédois de 25 ans, né en Angleterre, était déjà colonel de l'armée carliste d'Espagne, puis il avait combattu aux côtés des Russes avant de prendre le parti de Lajos Kossuth en Hongrie. Réfugié avec lui en Amérique, il avait aussitôt embrassé la cause de William Walker au Nicaragua et mis à sa disposition la fortune d'une riche veuve épousée entre-temps, ainsi qu'un armement moderne avec lequel, en novembre 1856, il se lance à la tête de 300 hommes à l'assaut des 3000 soldats alliés de Masaya. Son idée neuve, et elle fait de lui l'un des inventeurs méconnus de la guérilla urbaine, était de progresser vers le centre de la ville en évitant l'accrochage, forant des tunnels, maison par maison, sautant sur les toits-terrasses, détruisant cloisons intérieures et murs mitoyens pour entourer l'ennemi comme une invisible inondation. Mais le plan échoue et les mercenaires se replient sur Granada, où le choléra lunatique choisit cette fois de jouer contre William Walker. Le président de la République est un ancien médecin. Il sait un peu ce que sont les hommes au-dedans de leur sac de peau, l'équilibre des humeurs, du sang et de la bile, de la salive et des os. Voyant disparaître son armée ravagée, il décide d'éradiquer l'épidémie en déportant les malades et les mourants sur l'île d'Ometepe, au milieu du lac, où ils seront exterminés par les Indiens, dont c'est la juste revanche, avant même de mourir du choléra.
Je vous écoute, soldat, soyez précis.
Eh bien, nous pouvons...
Attendez, vous n'étiez pas trois en éclaireur ?
Henry s'est avancé sur un toit en étant complètement à découvert. Il s'est fait tirer comme un lapin.
Bon, reprenez.
Eh bien, si vous voulez que je résume le merdier, votre République ne fait plus que quelques rues. Si vous sortez de l'église, vous entendrez l'ennemi, il est tout prêt.
Avez-vous un ordre à transmettre au colonel Henningsen ?
Général.
Ah, c'est pas ce qui est écrit sur ses épaules.
Approchez, Henningsen.
Vos ordres ?
Mon général.
Faut détruire la capitale.
Pardon ?
La ville est perdue. Mais ils n'auront rien. Ne trouveront rien. Ils ne laisseront que des ruines. Les Russes ont mis le feu à Moscou pour que Napoléon ne puisse rien en faire.
Pendant 20 jours, la troupe réfugiée autour de l'église de Guadalupe incendie les maisons une à une. Pendant 20 nuits, le grand rougeoiement monte au ciel, survolé de volutes et d'escarboucles qui grésillent en touchant l'eau du lac. Dans les notes qu'il a laissées, Walker reconnaît que l'opération manque de panache et de discipline.
L'excitation de l'incendie augmentait dans la troupe la soif d'alcool. Les soldats pensaient qu'il était regrettable de laisser périr tant de bon vin et de cognac. En vertu des lois de la guerre, la ville avait perdu son droit à l'existence. Depuis le vapeur à l'ancre, où j'avais assisté à l'incendie, je montais une dernière expédition pour tirer Henningsen et mes hommes de ce champ de ruines fumantes que nous avions abandonné aux Alliés. Un désert de cendres et de bouteilles vides, de murs noircis.
La France et l'Angleterre soutiennent les Alliés, mais sans mettre pied à terre. Les deux puissances, momentanément unies, sont prêtes à s'affronter à nouveau dès la victoire. Pendant que les Anglais bloquent San Juan del Sur, la France du Second Empire envoie la goélette, l'embuscade, sécuriser les mouvements des Alliés dans le golfe de Fonseca. Elle protège tout particulièrement l'ambassadeur du Costa Rica, Nazario Toledo. De l'extérieur, cette protection semble curieuse ou absurde. Mais l'homme est pressenti pour devenir le ministre des Relations extérieures du Costa Rica, et quelques semaines plus tard, ce sera le cas. Napoléon III lui enverra alors Félix Belli, qui obtiendra, ce Nazario Toledo à la reconnaissance du ventre, un contrat d'exclusivité pour le percement du canal interocéanique au Nicaragua. Jusque-là, c'est habilement manœuvré, mais au lieu de demeurer secrète, cette concession sera signée avec pompe à Managua. Aussitôt, le Times de Londres publiera le contrat et la couronne va s'en émouvoir. Le Herald de New York le publiera à son tour et l'Amérique du Nord menacera. La France devra plier. Il n'y aura jamais un seul centimètre de creusé de ce foutu canal du Nicaragua, dont le général Sandino au XXe siècle reprendra le projet avec aussi peu de réussite, et dont le rêve, pendant deux siècles, aura fait mourir des dizaines de milliers d'hommes.
Si nous prenons la rue Los Dolores à gauche, là en sortant, on laisse l'avenue Valladares dans notre dos et tu verras la rue se transformer en Venelle. Après l'église des douleurs, on avance plus. Des étals, des badauds, des cartons d'emballage alignés le long du mur. Les enfants dorment là-dessous.
J'espère pour toi que tu connais un bistrot, héros.
Je te propose d'aller par là. On rejoint l'avenue Jerez et la rue Salvador Mendieta, qui rame jusqu'au parc La Leone. de là où la vue sur Tegucigalpa est magnifique.
Une vieille femme assise très droite sur un tabouret qui pèle des fruits ou des légumes sur de vieux journaux ouverts sur ses genoux avant de jeter son labeur avec la solennité d'une princesse inca au fond d'un seau plein d'eau, vend aussi les journaux du jour, dont je vérifie néanmoins la date. Je choisis El Heraldo, quotidien conservateur, et El Nuevo Día, plus au centre. Si pour ce dernier les choses sont claires, termina crisis de pasamonos, toujours cet apaisement centriste. Pour la droite, rien n'est encore joué. Solución profesional de crisis en frontera. Toujours cette droite belliqueuse. Le parc a quelque chose de méditerranéen. Il pourrait être dédié à la pratique de la pétanque et à la nostalgie des orphéons. Mais une autre réalité recouvre cette image. Il est squatté par des gosses qui sniffent la colle résistole.
Tegucigalpa. Attends, attends. Ah, le voilà. C'est un article d'Eduardo Baer. Écoute cet inventaire de la ville.
Tegucigalpa.
Deux rivières.
Dos ríos.
12 ponts.
12 puentes.
6 montagnes.
6 montañas.
Deux cathédrales, 100 mines d'or
abandonnées,
1000 rues,
1000 cages,
2 avenues,
2 avenidas,
50 guerres civiles, 15 gouvernements de 1 à 2 mois, un gouvernement de 2 jours,
un gobierno de 2 días,
6 dictatures militaires,
6 dictaduras militares,
une tyrannie de 16 ans,
una tiranía de 16 años,
2 villes jumelles,
2 ciudades gemelas.
Ah ben oui, de l'autre côté du Rio Choluteca, il y a sa sœur siamoise, déshéritée, Comayagüel.
Dès le début de 1857, les Alliés font le siège de Rivas, où la poignée de rescapés de l'aventure walkerienne est venue s'enfermer, prisonniers d'une contrée fantôme qui ne deviendra plus jamais le centre du monde, encerclés par les armées coalisées de 5 pays que soutiennent les puissances internationales et la fortune de Cornelius Vanderbilt. C'est la seule occasion où William Walker fera preuve d'un indéniable charisme, lui qui parviendra à convaincre ses hommes, malgré les appels à la désertion et les promesses de clémence, de défendre pendant plusieurs mois ces quelques kilomètres carrés d'enfer, sans eau ni nourriture, et sans aucun but, plus la moindre perspective de victoire, avant de signer son acte de reddition en mai 1857.
Il y a quelques jours, à San Salvador, je suis monté dans un taxi pour aller prendre le verre de trop chez Beatrice Acaine au Café La Luna. Et au retour, un chauffeur de taxi, Farabundo Martins, m'a affirmé que dans la capitale, la paix a déjà fait plus de morts que la guerre. Alors que San Salvador est souvent demeuré en dehors des zones de combat. On a vu arriver, après les accords de paix de Chapultepec, les Salvadoriens de la deuxième génération expulsés par les États-Unis. Et ces gamins, membres des gangs latinos de Californie, écartelés entre Los Angeles et San Salvador, entre les anges et le Saint-Sauveur, tu vois. Il n'hésite pas à attaquer une épicerie à l'arme lourde. Cette violence urbaine est toute nouvelle là-bas. Les gens sont exaspérés, m'a dit le chauffeur. La police du gouvernement de l'Arena, la droite au pouvoir, est complètement dépassée. Du coup, ces violences vont offrir sur un plateau démocratique la capitale aux Farabundo Martins.
Qui n'ont jamais pu la conquérir par les armes. C'est tout de même incroyable.
Ça l'est. Le chauffeur a éclaté d'un rire dément. Quand on est arrivé dans la calle Beverly, complètement désert. Il a fait crisser ses pneus autour du monument au Salvador del Mundo, l'inutile sauveur du monde, et il a sorti un pistolet mitrailleur de sous son siège défoncé.
Ici à Tegucigalpa, au Honduras, la violence est moins aveugle. Ce sont les cartels qui se foutent dessus. Si comme moi tu vas chercher ton journal à l'aube, tu peux voir les cadavres non ramassés dans les rues ou dans les décharges des quartiers périphériques. Hier soir, à l'entrée de la Rana, tu sais la boîte de nuit, deux géants en costard noir passaient les clients au détecteur pour les désarmer. Et c'était pas tendu, non, il y avait même une sorte de bonne humeur.
Je m'étais installé en terrasse, et j'avais regardé glisser les pick-up Toyota, silencieux sur la poussière rougeâtre du quartier moderne et plat du boulevard Francisco Morazán, où la nuit donne toujours aux voyageurs l'impression d'être à la limite d'un désert.
Après sa reddition de 1857, Walker est extradé à Panama. Il rejoint les États du Sud, où il est accueilli en héros par le camp des Confédérés. Le petit jeune homme prononce des conférences devant des adeptes enthousiastes du destin manifeste. Il échange des lettres avec le président Buchanan, qui est un peu pétrifié par la menace de la guerre civile. Du coup, il fait attention à ne pas mécontenter Walker. Il lui prête, je crois, une aura qu'il n'a pas. Et ce n'est certainement pas sans rapport, William Walker est à nouveau acquitté de toute infraction à la loi de neutralité. Eh bien, tu sais ce qu'il fait dès son procès terminé ?
Au hasard, il organise une nouvelle attaque du Nicaragua.
Six mois après la déroute de Rivas, le vapeur Fashion quitte Mobile et l'armée envoie la corvette Saratoga à ses trousses. William Walker a le temps de reprendre San Juan del Norte aux Costariciens, mais doit capituler devant la marine de guerre nord-américaine qui l'a rattrapé. À nouveau, il est déporté à Panama. À nouveau, il rejoint les États du Sud. La dernière tentative, un an plus tard, est encore plus calamiteuse et le bateau mal équipé s'échoue sur la barrière de corail du Belize, bien avant d'atteindre le Nicaragua que William Walker ne reverra plus. Le petit jeune homme en noir décide alors de s'installer à la Nouvelle-Orléans. Il a 35 ans et rédige ses mémoires, « La guerre du Nicaragua », dans lesquelles l'ancien journaliste relate à la troisième personne les exploits chevaleresques du général Walker, comme si le narrateur était Byron Cole ou Sancho Panza. Mais les journaux l'oublient et la guerre de sécession menace. Il se convertit au catholicisme, lit les pères de l'Église. On le croit fini pour la guerre. William Walker laisse dire. Il négocie en secret avec la secte des chevaliers du Cercle d'Or. L'an prochain, il délaissera le Nicaragua pour attaquer le Honduras sur sa côte caraïbe, par les îles de la baie à Roatán. Il lui reste maintenant un an à vivre.
C'était
Pura Vida, Vie et mort de William Walker.
De Patrick Deville.
Adaptation Arnaud Bertina.
Septième épisode.
Avec
Emiliano Suarez, David Duran Camacho.
Les vendeurs de journaux.
Vincent Schmitt.
Le narrateur.
Clémentine Saint-Toul.
La femme brune.
Charlie Nelson.
Victor.
Philippe Bautier.
William Walker.
Nicky Marbeau. Mustapha Abourachid.
Les mercenaires de Walker.
Antoine Sastre.
L'officier Henningsen.
Et Jean-Yves Chilot, Alicia Roda, Marina Moncade, Manuel Ulloa, Paola Cordova. Bruitage.
Bertrand Amiel.
Conseillère littéraire.
Emmanuel Chevrière.
Équipe de réalisation.
Éric Villenfin, Mathieu Tourin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand.
Pura Vida, Vie et mort de William Walker, de Patrick Deville, est publié aux éditions du Seuil. Hasta mañana.
À demain.